Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjane Chélil et on va parler politique.
Oui, oui, une fois n'est pas coutume hein, dans Le Super Daily, mais aujourd'hui, on va parler un petit peu politique et notamment, on va se questionner sur l'influence des réseaux sociaux sur les processus électoraux et démocratiques mondiaux.
Ouais, est-ce que les réseaux... Un gros sujet. Hein. Est-ce que les réseaux sociaux ont trop d'influence sur les processus démocratiques mondiaux? C'est une grosse question. Hein. Ça, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on ne fera plus jamais de politique comme avant. La politique à la papa, c'est terminé, comme dirait l'autre. Et l'utilisation des médias sociaux en politique, hein, notamment bah, évidemment Twitter, Facebook, YouTube, même Instagram récemment, hein, ont radicalement changé la façon dont les campagnes, ou en tout cas dans les débats démocratiques, sont menées. Et la manière dont les électeurs interagissent avec leurs élus.
Et oui, et ce changement, il a eu lieu il y a à peine plus de 10 ans. Hein. Thibaut, il y a eu une révolution hein, il y a à peine 10 ans avec Barack Obama. L'élection, la première élection de Barack Obama, celle de l'élection de 2008, qui a vraiment marqué un changement dans la manière de faire de la politique depuis que les réseaux sociaux existent. Et donc, en 2008, Barack Obama, c'est le premier, entre guillemets, président des réseaux sociaux avec sa campagne Yes We Can. C'est le premier, en tout cas, à faire une place centrale dans sa campagne présidentielle aux réseaux sociaux.
Ouais, c'est vraiment le cas d'école. Hein. C'est lui qui a lancé cette nouvelle forme de politique. Mmh. Et puis, à l'époque, on se souvient, hein, on est en 2008. Donc, en 2008, t'as quand même, les réseaux sociaux sont émergents. Hein. C'est pas
nouveau,
encore...
Hein.
Je crois même que t'as encore MySpace hein, en 2008.
Oui,
hein.
Et puis Facebook, c'est tout nouveau. Hein,
Facebook est tout nouveau. Twitter est balbutiant. Donc, mmh. Vraiment, il a anticipé sur une tendance et il a fait un pari. Et notamment, on se souvient à l'époque, en 2007, hein, donc pendant la campagne, eh bien, qu'il avait embauché comme bras droit ou en tout cas comme consultant, un expert qui s'appelle Chris Hughes et qui est rien de moins que le cofondateur de Facebook et qui avait à l'époque 24 ans. Donc on sent que dès ce moment-là, eh bien, les réseaux sociaux et la politique allaient commencer à travailler main dans la main, ça c'est une évidence. Et du coup, eh bien, en 10 ans, il y a eu tellement de changements dans les outils mis à disposition des politiques. C'est hallucinant tout ce qui s'est passé en 10 ans. Le premier, par exemple, eh bien, c'est la possibilité d'adapter le message au public. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant.
Exactement. Avant, dans les campagnes présidentielles précédentes, puisque c'est celles-là qui sont en tout cas les plus médiatisées, on pouvait parler à un certain public en parlant à un certain journal, en se disant « Ok, si en France, si je vais parler au Figaro, bon, je vais plutôt parler à des libéraux de droite. Si je vais parler à Libération ou à l'Humanité, là, bah, je vais plutôt parler à des gens de gauche. » Donc, il y avait cette possibilité, mais bon, de ciblage très vague et très large. On pouvait adapter son discours en fonction de à qui on parlait, mais enfin, ça restait très limité. Et là, les réseaux sociaux viennent révolutionner tout ça, puisque le ciblage sur les réseaux sociaux est beaucoup plus précis. Donc, on peut vraiment choisir à quelle catégorie de la population on parle.
Ouais, voilà. Et puis, on peut adapter la tonalité de sa
Bien
campagne,
hein,
sans dire d'adapter réellement son programme. Mais en tout cas, la tonalité, il y a une campagne qui peut... on peut trouver qu'un message, il est approprié à des électeurs de moins de 30 ans et on va mettre un gros focus dessus. Et puis, peut-être que ce focus sera différent pour des électeurs de plus de 60 ans. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est nouveau et un nouvel outil à disposition nouveau. Bah, maintenant, en tout cas, 10 ans. Autre outil qui n'existait pas aussi autant avant, c'est la possibilité de mesurer l'opinion publique en direct. On se souvient à l'époque des sondages, des fameux sondages de Sarkozy, etc. Maintenant, tout se fait en direct quasiment.
Ouais, c'est très intéressant parce que en fait, on remarque que les réseaux sociaux ont amené une continuité dans ce qui se faisait en politique avec une rupture dans la pratique. Parce que quand on regarde d'anciennes élections, alors en France comme celle de Jacques Chirac par exemple, ou avant de Mitterrand, dans leur bras droit, on retrouvait un homme comme Jacques Séguéla, qui est un grand publicitaire français. Et bien sûr, on retrouvait des tonnes et des tonnes et des tonnes de sondages pour savoir qu'est-ce que les Français pensent de telle question, comment ils accueilleraient ci, etc. Et aujourd'hui, tout ça est directement possible sur les réseaux sociaux, en direct, directement du candidat à une certaine audience donnée. Donc on fait sauter des étapes et on va encore plus vite.
Ouais, et puis on voit aussi des pratiques du style un homme politique majeur, eh bien, qui va utiliser ses bras droits ou ses consultants ou ses communicants pour faire des tests. Donc je balance, on va voir des communicants pour un personnage politique faire des tests en balançant un tweet et voir quelles sont les réactions de suite, se dire est-ce que ça c'est un sujet dont peut s'emparer mon poulain politique. Voilà, ça c'est des choses qui n'existaient pas avant et c'est absolument passionnant à voir comment a évolué donc l'impact des plateformes, des médias sociaux sur nos processus démocratiques. Il est indéniable en 10 ans, mais maintenant la grosse question, eh bien, c'est de savoir si on est dans le trop d'influence. Est-ce que les réseaux sociaux ont trop d'influence sur les processus électoraux, avec au milieu de tout ça un énorme débat, une énorme verrue au milieu du tableau. Eh bien, c'est les publicités ciblées qui sont au cœur de toutes les manipulations.
Effectivement, les publicités ciblées sont un peu au cœur de toutes les questions qu'on peut se poser entre ce qui lie la politique et les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'elles permettent, grâce à des moyens financiers, de faire passer des messages auprès de populations définies, et peu importe qui on est, et peu importe quelle est la population définie. Donc, on va voir là, au cours de cet épisode, quelques exemples aussi de dérives qui peuvent avoir lieu à cause de ces publicités ciblées. Et quelles stratégies des pays peuvent mettre en place pour faire de l'ingérence dans des processus démocratiques électoraux d'autres pays, justement.
Ouais, ce qui est terrible, c'est que les publicités sur les réseaux sociaux, elles sont globalement bon marché, en tout cas à l'échelle de budget politique. Hein. Elles sont peu visibles des observateurs extérieurs et elles sont finalement assez peu traçables. Hein. C'est compliqué parfois de remonter sur qui manipule qui, ou en tout cas qui achète des messages personnalisés. Et on peut notamment parler de la Chine, et notamment de la Chine autour des manifestations à Hong Kong.
Oui, effectivement. Alors, pour que vous rendiez bien compte, hein, la Chine, c'est le deuxième pays en termes de revenus publicitaires sur Facebook après les États-Unis. Donc, c'est énorme. Et la Chine surveille tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à l'étranger aussi, hein, même en France, aux États-Unis. C'est le meilleur moyen pour eux de contrôler l'image de la Chine à l'extérieur, c'est justement d'utiliser du publicitaire sur les réseaux sociaux. Ça leur permet de faire passer des messages. On remarque par exemple qu'ils font pas ça en leur nom, hein, bien sûr, ils font ça à travers des médias qui sont contrôlés par le gouvernement. Donc par exemple, Xinhua News a diffusé plusieurs annonces sur Facebook en rapport avec ce qui s'est passé à Hong Kong. Donc, je vais rappeler juste après ce que c'est, en ciblant des pays comme les États-Unis, la Chine, mais aussi l'Inde et le Mexique. Et donc, on se demande quel est l'intérêt pour un média chinois comme Xinhua News d'aller cibler des Américains, des Mexicains ou des Indiens, et tout simplement de travailler l'image de la Chine à l'extérieur. Donc en fait, pour revenir sur ce qui s'est passé à Hong Kong, il y a une vague de manifestations anti-gouvernementales qui a eu lieu ces derniers temps, là, contre un projet de loi qui visait à permettre l'extradition de personnes accusées de crimes contre la Chine continentale. Et en fait, pour contrôler l'image de ce qui ressortait de Hong Kong à l'extérieur, justement, la Chine a utilisé publicitaire. On peut peut-être relever tout de suite ce qu'ont fait les réseaux sociaux, même si on en reparlera aussi plus tard. Là, dans ce cas précis, Twitter et Facebook ont donc été utilisés un peu comme des outils de propagande par le gouvernement chinois, et les deux ont réagi en supprimant certains comptes. Twitter a déclaré avoir supprimé 936 comptes qui tentaient délibérément et spécifiquement de semer la discorde politique à Hong Kong, et a affirmé qu'il n'accepterait pas de publicité de la part de médias contrôlés par un État.
Voilà, et ça c'est vrai que là-dessus, hein, au sujet, alors ça c'est ce que font les plateformes, mais on peut parler aussi de l'encadrement légal, en tout cas du cadre légal. C'est vrai qu'autour de ces publicités dans un cadre politique, eh bien, l'encadrement, il est très variable en fonction des pays. Hein. Alors juste un petit rappel comme ça, en France c'est interdit, typiquement, c'est interdit d'avoir des publicités politiques sur les réseaux sociaux. Parfois, il est bon de vivre en France quand même. Hein. C'est clair que ça permet d'assainir aussi un cadre de discussion démocratique. Mais par contre, c'est autorisé en Allemagne. En Allemagne, c'est autorisé, alors sous certaines conditions que je ne vais pas détailler là. Et puis, c'est quasiment pas encadré dans d'autres pays de l'Union, et notamment alors en Grande-Bretagne, qui sont presque plus dans l'Union, mais en Grande-Bretagne, il n'y a aucun encadrement. Et puis, dans bien des pays, notamment en Italie, etc., il n'y a pas d'encadrement légal. C'est extrêmement flou et donc en gros n'importe qui peut faire n'importe quoi et dire ce qu'il souhaite sur les réseaux sociaux sous le format publicitaire. Le problème
en fait ce qui est intéressant aussi c'est la manière dont, dont c'est fait, c'est-à-dire que quand c'est au format publicitaire, souvent c'est au format publicitaire mais avec des articles de news, des articles qui parlent comme si c'était des journalistes, comme si c'était un média réputé qui expliquait un fait et en fait c'est des articles détournés à des visées politiques et qui sont financés par des politiques eux-mêmes, donc c'est là où il y a une collision, en tout cas un conflit d'intérêts.
Ouais, c'est la manière dont d'utiliser les codes du média pour parler politique et vraiment servir un besoin politique. Ça c'est vrai que c'est assez troublant et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup hein, qu'on a beaucoup vu autour des élections américaines notamment. Voilà, on peut parler aussi, et ça c'est peut-être le plus marquant de ces dernières années, et eh bien c'est comment les réseaux sociaux ont permis un certain nombre d'ingérences et d'influences étrangères sur des élections nationales. Ça, c'est assez accablant. Je vais par exemple parler de l'Irlande. Et l'Irlande, on se souvient, il y a quelque temps de ça, il y a eu un référendum sur l'IVG. Et référendum, il a été perturbé par des campagnes qui étaient issus de l'étranger, des campagnes sur les réseaux sociaux. Et c'était notamment des publicités ciblées hein, qui ont posé des énormes problèmes de transparence parce qu'on s'est rendu compte eh bien, qu'elles ne venaient pas d'Irlande et qu'elles venaient évidemment de Grande-Bretagne, mais aussi des États-Unis. Et c'était énormément de budgets publicitaires ont été investis pour soutenir eh bien, des clips de campagne hostile à l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, c'est assez troublant. Et là, on se rend compte que sur des débats démocratiques comme ça, dans le cadre d'un référendum, eh bien là, que les sous venaient de l'étranger. Et là, c'est gravissime.
Ouais, c'est gravissime. Et moi, ça me fait penser aussi au fait que, par exemple, dans des élections en France, je crois que les 48 dernières heures, les politiques ne peuvent pas prendre la parole dans les médias et les médias ne peuvent pas parler directement, donner des sondages ou parler de ce qui se passe dans cette élection. Et peut-être qu'une des solutions qui devra être mise en place à l'avenir pour arriver à respecter les processus électoraux, ça pourrait être aussi le même type de processus sur les réseaux sociaux avec une interdiction de parler de certaines choses. Mais quand on connaît la difficulté de contrôler des réseaux sociaux, ça paraît un petit peu absurde.
Ouais, tout à fait. On peut aussi, évidemment, en matière d'ingérence étrangère, évidemment, on peut parler du fiasco de l'élection Trump et de l'influence de la Russie.
Oui, alors on va faire rapide parce que c'est un sujet qui mériterait un épisode complet du Super Daily, mais on connaît depuis l'année dernière hein, les vraies implications russes dans cette élection avec certains documents qui ont été remis au Congrès. On sait maintenant qu'un grand nombre de publicités ont été financées par un organisme russe, l'IRA, donc si ça vous dit rien, c'est l'Internet Research Agency. C'est une agence qui est soutenue directement par le Kremlin.
Ouais, donc, on peut dire quoi ? C'est des sortes d'agences secrets des réseaux sociaux.
C'est un peu ça. Peut-être qu'ils ont d'autres choses. Ils font d'autres choses aussi sur Internet, mais en tout cas, ils ont une grosse activité sur les réseaux sociaux.
C'est flippant ce truc-là. Ça donne envie d'aller voir comment ça se passe, d'être une mouche, voir comment ils bossent à l'IRA.
Et bah, surtout, ils ont monté un vrai plan de com en fait, hein, pendant l'élection, les campagnes d'élection américaines. Alors, il y en a eu deux. Il y en a une pendant la primaire, puis une pendant les élections présidentielles. Mais c'est vraiment tout un plan de com, j'insiste, c'est pas juste des pubs comme ça balancées, parce que en fait ils ont ciblé plusieurs catégories de population dans le peuple américain. Alors pour vous faire grossièrement, ils ont ciblé des fans de Donald Trump conservateurs, ils ont ciblé le public noir américain en passant par les fans de Martin Luther King, etc., des latinos ou des homosexuels. Et avec ces catégories-là, ils leur ont diffusé des pubs qui allaient dans leur sens, mais qui les poussaient encore plus loin dans leurs idées. Comme par exemple, avec les conservateurs, ils utilisaient des pubs sur l'islamisation de Houston. Pour les Noirs américains, ils utilisaient des publicités sur les violences policières. Enfin voilà, comme ça pour chaque catégorie. Mais surtout, toutes ces pubs, elles renvoyaient à des groupes Facebook qui étaient aussi tenus par l'IRA et qui du coup continuaient d'abreuver en fake news et en infos faites pour manipuler et polariser le débat américain, pour faire en sorte au final qu'il y ait différents groupes comme ça qui s'éloignent les uns des autres, qui soient moins en moins tolérants les uns avec les autres et qui s'opposent sans même plus pouvoir se parler. Donc, en fait, on peut conclure un peu que ce processus qu'a eu l'IRA pendant ces élections, mais ce n'était pas tellement d'essayer absolument de faire élire l'un ou l'autre candidat, mais surtout de polariser le débat et de faire en sorte de mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets, à la démocratie américaine.
Ouais, parce qu'on parle souvent, tu as raison de le souligner ça, on parle très souvent quand on fait le lien entre réseaux sociaux et processus électoraux ou démocratie, des publicités en disant, parce que c'est le plus choquant, c'est là où il y a de l'argent. Mais on pourrait revenir aussi aux fondamentaux et rappeler que le newsfeed et les fonctionnalités de personnalisation, c'est-à-dire l'algorithme qui est derrière le newsfeed, en soi, c'est déjà un vrai cauchemar pour la démocratie, puisque dans le fondement de cet algorithme, effectivement, il y a la polarisation. C'est comme ça que ça marche. Si on reprend un peu les déclarations d'il y a quelques mois de Mark Zuckerberg, il revenait sur le newsfeed et il nous réexpliquait comment ça marche. Il aime bien nous réexpliquer souvent, Marquito. Oui. Attendez, je vous explique, vous qui ne comprenez pas trop, c'est un peu terrien. Je vais vous expliquer. Et il disait, l'objectif du newsfeed, c'est de montrer aux gens des histoires qui les intéressent le plus. Ouais, sauf que ça, c'est déjà un problème. Parce qu'en fait, la démocratie, pour qu'elle marche, elle doit se nourrir aussi d'opinions. Les gens doivent se nourrir d'opinions différentes, exact, et se faire leur propre avis. Sauf que quand tu vois toujours la même chose...
Ça te conforte dans tes idées, effectivement, sans jamais remettre en question aucune de tes idées, sans jamais te faire douter de quoi que ce soit. Et juste un petit chiffre en passant, 126 millions d'Américains ont vu entre janvier 2005 et août 2016 une des 80 000 publications organiques de l'IRA qui avait lieu justement dans ces groupes.
Ouais, et donc ce clivage, comme tu dis, on l'a vu, il était extrêmement fort aux États-Unis. On a senti vraiment une fragmentation de la société avec les Trump et les anti-Trump. Mmh. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Et ça, ça dépasse le cadre du publicitaire. C'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque au newsfeed, à la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux aussi, aux logiques de groupe. On sait que Facebook investit beaucoup pour développer les groupes. Mais les groupes, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que tu peux tout à fait te retrouver finalement dans une bulle d'obscurantisme, dans une bulle d'infos qui ne permet pas d'élargir tes points de vue. Ensuite, on peut, pour revenir sur la Russie et sur son Internet Search Research Agency, clairement, eux, ils sont dans tous les mauvais coups ils s'appliquent effectivement à déstabiliser les démocraties. Ils ont bien compris comment fonctionnaient les algorithmes et ils ont bien compris qu'effectivement, le clivage dans les démocraties occidentales, il n'était pas si compliqué à entretenir, et pour ça il suffisait de nourrir les deux camps, parce qu'ils nourrissent les deux camps.
Exactement, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir les pros et les anti en les confortant dans leur position pour qu'ils s'affrontent et qu'il n'y ait pas de consensus possible.
Voilà, donc cette ferme à troll, parce que c'est une ferme à troll concrètement, oui. L'Internet Research Agency, qui est financée par la Russie, on la retrouve à différents moments, et notamment par exemple en Catalogne. En Catalogne, en 2017, l'Espagne, souvenez-vous de ce référendum pour l'indépendance de la Catalogne, en 2017, l'Espagne annonçait avoir transmis des protestations formelles à Moscou et accusait formellement la Russie d'avoir mené une campagne d'influence sur les réseaux sociaux pour soutenir les partis indépendantistes catalans, avec en lame de fond l'objectif de déstabiliser l'Espagne, tout simplement, via les réseaux sociaux. Et à l'époque, Madrid avait repéré une quantité faramineuse de faux comptes sur plusieurs réseaux sociaux liés, évidemment, à la Russie. Où est-ce qu'on la retrouve encore, Internet Research Agency? On la retrouve, évidemment, en France. On n'est pas indemne de tout ça. Et notamment pendant les élections présidentielles. Pareil, en 2017, en avril 2017, souvenons-nous pendant les élections que des Macron Leaks, on a oublié les Macron Leaks, ces fuites de last minute qui étaient clairement avérées venir de Russie. Et Facebook, à l'époque, avait supprimé 30 000 comptes qui diffusaient des fake news. Autre moment où on retrouve encore une fois la Russie derrière ces logiques de manipulation des démocraties occidentales, dans le mouvement des Gilets jaunes.
En fait, dès qu'il se passe quelque chose en Europe, par exemple, là, c'est des questions européennes, mais qui peuvent potentiellement opposer deux populations avec des sujets qui sont un peu facilement inflammable, la Russie va venir mettre son grain de sel dedans pour essayer de déstabiliser au final politiquement un bloc qui est à côté, juste à côté d'eux, qui est l'Union européenne. C'est surtout ça la question de fond, je pense.
Exactement. Et alors pour revenir sur les gilets jaunes, et là ça a été assez flagrant. Hein, pendant, on a vu des médias comme Russia Today devenir des médias quasiment nationaux en France. Hein, d'un coup, oui. Ce média qui est clairement un média financé par le Kremlin est devenu central au milieu de nos réseaux sociaux. Et là-dessus, il y a une société de cybersécurité qui s'appelle New Knowledge qui a analysé 200 comptes Twitter qui diffusaient des photos, des vidéos de personnes grièvement blessées par la police, etc., présentées comme des gilets jaunes. Sauf qu'il a été avéré ces 1600 tweets et retweets par jour générés par ces comptes, 1600 tweets, rendez-vous compte
la puissance du flow
envoyé par ces trolls russes. Et bien le problème, c'est que ces images, évidemment, elles dataient d'événements antérieurs aux gilets jaunes, hein, donc on est clairement dans de la manipulation. Voilà, et donc on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est quand même impressionnant, hein, l'impact et la manière dont ils peuvent modifier les processus électoraux et influer. Alors, au milieu de tout ça, qu'est-ce que font les plateformes pour se prémunir ?
Ben, rapidement, les plateformes, on l'a vu, hein, Twitter comme Facebook ferment des comptes, essayent de combattre souvent en retard tous ces fake comptes ou ces comptes qui diffusent du faux contenu. Aujourd'hui, ce qui est intéressant surtout, c'est la transparence que Facebook essaye de mettre en place sur la plateforme en informant les utilisateurs de qui paye pour les pubs, qui est caché derrière une publicité, ce qui permet quand on est utilisateur quand même d'essayer de se renseigner un minimum sur qui produit la publicité, qui la paye et d'où ça vient. Ça permet de connaître un petit peu plus ce qui se joue derrière cette publicité.
Ouais, ça, c'était une des grosses annonces de Facebook. Hein. C'était effectivement la transparence publicitaire autour des achats politiques et le fait de pouvoir accéder à toutes ces infos à faire à suivre, hein, parce qu'on voit que certains ont réussi quand même à passer au milieu des mâles des filets. Quoi qu'il advienne, maintenant, ça va être une guerre entre les plateformes, entre sans doute les corps intermédiaires et notamment nous, hein, citoyens, de trouver les bonnes news. Et puis, évidemment, tous ces trolls, tous ces gens qui veulent influer sur les processus démocratiques.
Ah, au final, quand on regarde dans les différents exemples qu'on a cités là, on remarque donc les médias sociaux, c'est des outils qui peuvent être autant utilisés pour informer, élever le débat politique, améliorer la vie citoyenne, parce que c'est quand même un formidable outil d'information. Et en même temps, c'est aussi un outil qui peut être utilisé pour influencer, déstabiliser une démocratie. Donc, c'est surtout aux utilisateurs et puis aux plateformes d'essayer de tirer le meilleur de tout ça.
Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire. On vous laisse le mot de la fin. N'hésitez pas à venir nous en parler. À votre avis, est-ce que les réseaux sociaux ont aujourd'hui trop d'influence sur les processus électoraux démocratiques et démocratiques mondiaux? Venez nous en parler sur nos réseaux sociaux.
@supernatif, Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Et n'hésitez pas à parler de notre podcast, s'il vous plaît.
Oui, partagez-le. Laissez-nous un petit commentaire. Ça nous ferait très plaisir sur Apple Podcast. Un petit commentaire, une petite note, s'il vous plaît. Et puis d'ici là, on vous donne rendez-vous dès demain.
Allez, ciao,
ciao. Salut à tous.